Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. 17 500 enfants sortis des groupes armés ont été assistés depuis 2017 en RDC dans le cadre de leur réintégration. Annonce faite ce mercredi à Kinshasa par le représentant de l'UNICEF, Edouard Bagbeder, était l'un des invités à la conférence hebdomadaire de l'ONU. Entretien hier entre le président de la CENI et une délégation de la division de l'assistance électorale des Nations Unies venue de New York en mission à Kinshasa. Au menu, les besoins, les défis et les contraintes du processus électoral en RDC. Notre invité, c'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, parle du forum sur l'unité et la réconciliation que l'Assemblée épiscopale va organiser au mois de mai prochain. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, Polydor Basunga et sur les manettes. 17 500 enfants sortis des groupes armés ont été assistés depuis 2017 en RDC dans le cadre de leur réintégration. Déclaration faite ce mercredi à Kinshasa par le représentant de l'UNICEF en RDC au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Edouard Bagbeder était l'un des invités de cette rencontre du système des Nations Unies. Ses propos ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Au sujet du processus de sortie de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, on vient de mentionner ici plusieurs exemples d'enfants qui étaient au sein de l'ADF ou d'autres mouvements et qui ont été maintenant libérés. Depuis 2017, il y a plus de 17 500 enfants qui sont sortis des groupes armés et qui ont été assistés. Ça, ce sont les cas qui sont connus, documentés, sur lesquels l'UNICEF et d'autres partenaires ont travaillé. Sur ces 17 000, près de 10 000 enfants ont bénéficié de programmes de réintégration individuelle et ou collective dans leurs familles et communautés. Lorsqu'on regarde l'année 2021, l'année dernière, plus de 3 300 enfants ont été séparés et pris en charge dû à ces différents conflits.
Bonne nouvelle pour les enfants cardiopathes de Lubumbashi avec le début ce mercredi au centre médical Diamant de cette ville de la campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite, une campagne menée par les médecins venus des États-Unis d'Amérique, membres de Novik Cardiac Alliance. La fondation SEM Diamant qui organise cette campagne invite les parents dont les enfants souffrent de cette maladie à se faire enregistrer pour sauver leur vie. Reportage à Lubumbashi de Jean Gandou.
Pour cette première phase, 50 enfants ont été enregistrés. Le plus petit a 6 mois et le plus âgé 16 ans. Ils ont été diagnostiqués de plusieurs malformations cardiaques congénitales. 25 d'entre eux seront opérés au cours de 2 semaines. Le responsable du centre médical Diamant a indiqué que cette chirurgie coûte environ 30 000 $ américains. Cependant, pour cette campagne qui commence en ce jour, tous les frais sont pris en charge par la fondation CM Diamant. Pour le docteur William Novitch, responsable des Novice Cardiac Alliance, les parents doivent en profiter pour donner une chance de vie à leurs enfants au lieu de les abandonner à une mort certaine. Les enfants qui seront opérés bénéficieront également d'un suivi post-opératoire. Les 25 autres attendront la prochaine campagne qui interviendra dans 3 mois. L'objectif est de faire venir le médecin membre de Novice Cardiac Alliance 2 à 3 fois par an et cela pendant 5 ans. Pour cela, Karim Kardjin, le responsable du centre médical Diamant, sollicite l'accompagnement du gouvernement et des partenaires pour que cette mission soit menée au profit de tous les enfants malades qui devront également bénéficier de cette chirurgie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Affaire détournement présumé de 400 000 $ américains au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le cabinet du ministre Tony Mwaba appelle la justice à se saisir de ce dossier pour que toute la vérité soit rétablie. C'est ce qu'a déclaré hier son conseiller en communication. Joël Kadendanga ajoute qu'il s'agit de l'acharnement de l'inspecteur général des finances contre le ministre Tony Mwaba. Il est au micro de Paul Matendo.
Les 400 000 dollars remis à l'EPC ont été destinés à la mobilisation des enfants, leur nourriture, leur transport, leur offrir les sucrés à boire, la restauration, les t-shirts, les képis et autres. Il s'agit d'une communication politique et non d'un rapport remis aux instances judiciaires. Au stade actuel, nous attendons que la justice convoque ceux qui sont concernés dans l'affaire. Et c'est la justice qui doit établir la vérité. parce que l'IGF parle de détournement de 400 000 dollars, mais il ne vous a jamais dit combien d'argent a été détourné. Et vous savez que l'IGF se sert de ses services publics pour régler les comptes à ses adversaires politiques. Et je suis prêt à conclure qu'il s'agit là d'un acharnement.
On en vient maintenant à la politique. Entretien hier mardi à Kinshasa entre le président de la CENI, Denis Kadima, et le directeur adjoint à la division de l'assistance électorale du département des affaires politiques des Nations Unies venu de New York et en visite ici à Kinshasa. Au menu de l'entretien, les besoins, les défis et les contraintes du processus électoral en RDC. Cette délégation onusienne va rencontrer également les acteurs politiques et ceux de la société civile. Simon-Pierre Nanit Lomia parle ici de l'objet de leur mission dans cet extrait proposé par Alain Erung-Mouchige.
C'est une mission en fait d'évaluation des besoins électoraux qui est une mission de routine dans le cadre des Nations Unies. Chaque fois que les Nations Unies reçoivent d'un État membre de l'organisation une demande d'accompagnement en matière électorale, une équipe est déployée pour venir discuter avec les principaux acteurs et essayer d'évaluer ensemble le contexte dans lequel les élections vont se dérouler, les différents défis, les contraintes et aussi ensemble identifier les besoins nécessaires et voir dans quelles conditions les Nations Unies pourraient accompagner l'État membre. Et dans le cas de la RDC, nous avons reçu une requête au mois de décembre, si je ne me trompe pas, de la commission électorale. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici et nous avons discuté avec le président de la CENI et les membres du bureau de la CENI. Et après ça, nous allons rencontrer les autres acteurs au niveau du gouvernement, des partis politiques, la société civile, ainsi que les partenaires internationaux qui sont ici en République.
Pour mémoire, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, avait évoqué au mois de février dernier, avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, la préparation des élections et les défis à relever. Il avait aussi évoqué la disponibilité des Nations Unies à répondre aux éventuelles sollicitations de la RDC. Et puis, l'une des faiblesses qui bloque le leadership féminin en RDC, c'est le manque de solidarité entre les femmes elle-même. C'est ce que pense en tout cas l'unique femme candidate à la présidentielle de 2018 lors d'une journée d'échange organisée mardi à Kinshasa avec la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, et des femmes leaders d'opinion politique et des médias. Une initiative de la chef de la MONUSCO dans le cadre de l'accompagnement des femmes en prévision des élections de 2023. Marie-Josée Ikofu a rappelé comment elle s'est lancée dans la course à la présidentielle. Des propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
J'ai décidé de mener ce combat dans la politique, un espace qui n'est pas facile pour nous les femmes. Quand je dis des fois que les femmes n'accompagnent pas les femmes, je sais de quoi je parle. J'ai été voir des grandes dames, j'ai été rencontrer des femmes quand j'étais candidate. Elles m'ont fermé la porte directement. Elles ne m'ont pas permis même de m'exprimer, même de présenter mon projet de société. Elles m'ont dit, mais tu ne nous as pas posé la question pour être candidate. Et je leur ai dit, mais et les hommes qui ont été, ils vous ont posé la question. Donc du coup, il y a eu cette porte-là qui a été fermée sans raison. J'étais la seule candidate. Donc je comptais beaucoup sur les femmes. Alors dès que j'ai vu ça et que j'avais compris certaines réalités en politique, j'ai vite compris que ma candidature devait être juste une tribune, une porte qui s'ouvre à moi, un premier essai. Et ensuite, je vais continuer mon combat.
Autre nouvelle, dans les Kwilu, les habitants de la commune de Bassoko, proche de la ville de Bandundu, peinent à accéder à l'eau potable. À l'occasion de la journée internationale de l'eau célébrée hier, ils ont avoué que faute de mieux, ils consomment quotidiennement l'eau des puits qui les expose aux maladies hydriques. Ils plaident par conséquent pour l'installation des bornes fontaines. Le directeur provincial de la régie des eaux s'est dit confronté ce jour-ci au manque de moyens financiers. À Bandunduville, Irène Boma.
Si la population du centre-ville de Bandundu est bien desservie en eau potable par la régie des eaux, cela n'est pas le cas pour les habitants de certains quartiers périphériques de cette ville, à l'instar du quartier Trois-Rivières qui n'est pas raccordé. Ici, la population souffre pour accéder à cette denrée vitale et recourt carrément à l'eau des puits non aménagée. Ces habitants qui craignent pour leur santé en appellent à l'intervention de la régie des eaux.
Nous souffrons. Pendant la journée, l'eau ne sort pas dans les pompes fontaines. Nous sortons toujours à minuit pour chercher de l'eau, loin de chez nous.
À Pelleville, nous avons toujours accès à l'eau du puits qu'on a créé avec le haut tout comme ça, et l'eau qui n'est même pas entretenue. C'est pour ça que vous verrez que les maladies hydriques demeurent toujours dans notre quartier. À la régie des eaux, moi je pense que si on n'a pas les tuyaux pour faire les raccordements, on pouvait même faire le forage public.
Le directeur provincial de la régie des eaux Bandundu, l'ingénieur Mutombo Aluda, justifie cette situation par le manque de moyens financiers.
Nous sommes obligés d'aller vers tous ces coins-là. Mais ce sont les moyens financiers qui nous manquent pour faire la politique. Donc le problème, juste, c'est d'avoir les moyens. Nous avons la main tendue vers la population, payer les fils que la facture.
Pour l'ingénieur Mutombo, ce problème de la desserte d'eau sera résolu si la population aide la régie des eaux en payant ses dettes de factures de consommation. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Faisons un détour par le Nord Kivu où les zones dangereuses en raison des risques éruptifs et d'éventuelles coulées de lave sont cartographiées par l'Observatoire volcanologique de Goma. Cette structure est désormais en mesure de prodiguer des conseils à ceux qui veulent investir ou construire dans la ville de Goma et à Nyiragongo. Ces cartographies ont été présentées lundi dernier à la conférence sur les volcans. Aucun investisseur ne peut entreprendre sans obtenir préalablement les avis autour de cette zone. C'est l'une des recommandations des experts. Des précisions avec le directeur de l'OVG, Adalbert Mouindo, est au micro de Sifa Magrou.
Lorsque quelqu'un arrive à Goma, il n'a pas l'impression que la population serait informée sur les risques volcaniques. Parce que ici à l'observatoire, nous avons des cartes qui définissent le couloir des laves. Et donc, pour d'autres pays, ça serait des zones moins denses où on placerait moins d'équipements possibles. Pas interdire, mais au moins désintéresser la population à ce qu'ils puissent s'installer là-bas d'une manière dense. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cet appel à travers la conférence qu'il faudrait que les investisseurs viennent chaque fois à l'OVG. À terme des quartiers, il n'y a pas de quartier qui est vraiment à l'abri de la coulée des laves. Et là, nous avons fait une carte de simulation de coulée de lave qui essaie de définir les zones qui sont plus sollicitées que d'autres. Et là, nous prenons comme sortie de lave la bouche éruptive qui sont des cornes que vous observez dans la ville et aussi des fissures qui se sont malheureusement pendant l'éruption de 2021 se prolongées dans la ville et même qui ont même cassé les monts Goma.
Économie à présent, l'Expo Dubaï 2020 a permis à plusieurs investisseurs venus de partout au monde de découvrir les opportunités qu'offre la RDC dans tous les secteurs car son image était toujours mal vendue par les autres afin de décourager les partenaires. Déclaration faite hier mardi par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, à l'issue des échanges entre la délégation congolaise et des hommes d'affaires émiratis, membres de la Chambre du commerce de Dubaï qui sont intéressés par les potentialités de la RDC. D'autres précisions avec vous, Alain Rongomouchich.
Le ministre de l'Industrie est revenu cette fois-ci avec force détails sur le plan directeur de l'industrialisation de la RDC, chiffré à 58,4 milliards de dollars américains, avec ses différentes composantes, notamment les infrastructures de transport, infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. Parlant de l'industrie des batteries et des véhicules électriques, Julien Paluku a vanté la RDC, désormais, selon lui, meilleure destination au monde pour cette industrie grâce à ses minerais stratégiques, dont le cobalt, le lithium, le nickel et le manganèse qui interviennent dans la fabrication de ces batteries et véhicules électriques. Julien Paluku a précisé que les mémorandums d'entente seront signés et que les retombées pourraient commencer à être palpables d'ici la fin de cette année. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et d'autres membres du gouvernement congolais qui ont fait le déplacement ont participé aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la nuit du Congo à Dubaï. Une soirée qui a mobilisé des milliers d'émiratis et d'autres nationalités venu savourer la rumba congolaise inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et autres styles musicaux. Plusieurs stars dont Maître Gims, Josarnio Kalongo, JB Mpiana et Inos B ont plongé Dubaï dans l'effervescence.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un soldat a été tué et 8 autres grièvement blessés depuis le début de l'opération militaire en Casamance, au sud du pays. C'est le premier bilan qui a été dressé ce mercredi matin par l'état-major à Dakar. Cette opération militaire lancée depuis le 13 mars vise à démanteler les bases de la faction de Salif Sadio proche de la frontière avec la Gambie. Au 28e jour de l'invasion en Ukraine, ce mercredi, les forces russes ne contrôlent ni Kiev, ni Mariupol, la grande ville portuaire du sud qui est soumise à un blocus systématique depuis plusieurs semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu aujourd'hui en visioconférence devant le Parlement pour demander à la France de défendre impérativement ses valeurs en Ukraine.
L'invité.
Notre invité, c'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, parle du Forum sur l'unité et la réconciliation que l'Assemblée épiscopale va organiser au mois de mai prochain. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi organiser un forum de réconciliation entre Katangais?
Nous avons d'abord constaté que nos frères politiciens Katangais sont divisés, se perdent dans des polémiques inutiles. Pendant ce temps, il y a les intérêts cruciaux de la population katangaise qui ne sont pas pris en compte dans leur labeur. Et puis, deuxièmement, nous sommes des artisans de paix, d'unité, de la réconciliation. À tout moment, nous devons lancer un appel aux uns et aux autres pour qu'ils puissent s'entendre et qu'ils agissent dans la vérité. Et il y a une opportunité en or, c'est l'appel du Saint-Père, le pape François, qui va visiter notre pays au mois de juillet, qui nous a invités à nous réconcilier. Avec les évêques de la province et quelques chefs de confession religieuse, nous nous sommes dit, nous pouvons lancer cet appel pour que au moins nous puissions inviter cette catégorie de notre population à pouvoir enterrer la hache des guerres, à rester, bien sûr, chacun dans son parti politique, mais nous prenons l'unité dans la diversité. Nous voulons que les gens puissent se réconcilier dans la vérité. De cette manière, nous pensons qu'ils pourront nous aider à résoudre les nombreux problèmes qui minent la vie de notre population.
Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif final?
C'est l'efficacité de l'action. Parce que, voyez-vous, par exemple, nous avons beaucoup de contrastes ici au Katanga. Nous avons une province très riche, mais une population très pauvre. Comment expliquer ça? Ça signifie qu'il y a un problème. Si les gens se mettent ensemble, nous pensons qu'on peut commencer à trouver des solutions à nos problèmes. Nous voudrions également promouvoir une éthique de la fraternité. C'est le pape encore François qui a publié une encyclique sur la fraternité. Nous voulons traduire cet appel en acte en commençant par nos frères et sœurs politiciens. Dans les jours à venir, peut-être que nous pouvons cibler aussi d'autres couches de la population. Quand je parle de la population, c'est pas seulement les Katangais, mais aussi tous ces gens qui ont choisi le Katanga, les quatre provinces démembrées, comme terre d'accueil.
Quelles les grandes figures de la politique katangaise seront présentes à ces assises?
Nous espérons qu'elles vont être présentes. En tout cas, nous les avons intéressées et nous pensons qu'ils vont répondre à cette invitation. Ce serait vraiment notre souhait et nous pensons que, bien, ce sera une occasion pour que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on puisse privilégier ce que nous avons en commun pour le développement de la province du Katanga, le Grand Katanga, mais aussi pour le développement de la République démocratique du Congo, notre pays.
Est-ce que ce forum n'a pas de visée politique quand on sait que 2023 s'approche à grands pas? Est-ce qu'il n'y aura pas question de dire que tous les Katangais qui seront là doivent avoir un candidat commun?
Non, il n'y a pas de visée politique. En tout cas, nous faisons notre travail en tant qu'artisans de la paix. Nous n'avons pas du tout des intentions politiques.
Pourquoi avoir choisi seulement ce temps qui s'approche de 2023?
Il n'est jamais trop tard de bien agir. Nous pensons que c'est un moment important. Bien sûr que c'est pas tous les jours qu'on reçoit le pape, c'est pas tous les jours qu'on entend un pape demander aux Congolais de se réconcilier. Donc c'est une démarche importante, nous devons saisir la balle au bon.
Et cette réconciliation sera fondée sur quoi?
Nous allons identifier ce qui nous divise. Nous allons identifier également ce que nous avons en commun. Par exemple, il ne sera pas question de mettre fin aux quatre provinces du Grand Katanga, mais nous allons trouver des mécanismes de collaboration pour, n'est-ce pas, le développement, surtout au profit de notre population. Je prends un exemple. La SNCC, elle traverse pratiquement toutes les quatre provinces. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la SNCC puisse, n'est-ce pas, être véritablement un moteur de développement? C'est un exemple que je donne. Pour donner aussi des idées à la fois à nos gouvernements provinciaux, mais aussi au gouvernement central. Si nous ne proposons rien, c'est-à-dire que nous allons continuer à nous enfoncer dans la misère. Et donc, on va identifier ce qui nous unit et ce qui est noble et voir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, nous serrer les coudes pour agir en synergie face aux enjeux cruciaux.
Considérant les fossés qui séparent les uns des autres, pensez-vous réellement que votre appel aura un écho favorable dans les camps qui sont divisés?
Par définition, un chrétien, c'est un homme optimiste. Par sur quoi un évêque, même si nous réussissons à réconcilier deux Je pense que c'est déjà beaucoup. Et j'ai foi à la bonne foi, à la bonne volonté des uns et des autres. Et puis nous avons parlé avec des gens, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Dans le cadre de notre sollicitude pastorale, on a parlé avec responsables des sociétés, des opérateurs économiques, des députés. Apparemment, tout le monde est disposé finalement à mettre fin à toutes ces querelles qui ne nous mènent nulle part.
Monseigneur Félix Moutéba, je vous remercie.
Je vous en prie, Jean.
C'était l'invité de Radio Okapi, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, est interviewé par Jean Gandou. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté, je ne peux pas terminer sans adresser une fière chandelle à Alain Rungmouchige et Élisée Tikuta qui m'ont aidé à fabriquer ce produit. Retrouvez-les sur www.radiokapi.net.